Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Théo Manval. Bonjour Théo.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est donc un verdict qui restera dans l'histoire et qui vient panser les plaies du mouvement Black Lives Matter. Un policier blanc reconnu coupable du meurtre d'un homme noir aux États-Unis. C'est tellement rare dans les nombreuses affaires récentes que même la famille de George Floyd n'osait pas y croire. Elle salue une victoire pour la justice, un tournant dans l'histoire, Sonia Dridi.
Oui, et c'est devant la télévision qu'une grande partie de la famille de George Floyd a appris le verdict et laissé exploser sa joie. Même soulagement devant le tribunal de Minneapolis où des centaines de personnes se sont réunies pour l'annonce du verdict. Parmi elles, l'un des frères de la victime, évidemment très ému.
Je me sens soulagé aujourd'hui. Je vais enfin pouvoir dormir. Nous pouvons enfin respirer.
L'avocat de la famille de George Floyd a insisté sur le caractère historique de ce verdict. Il faut dire que les condamnations de policiers pour meurtre sont très rares aux États-Unis.
Amérique, prenons un instant pour reconnaître ce moment historique. Non seulement en mémoire de George Floyd, mais pour l'héritage que cela laisse à l'Amérique.
Une fois le verdict rendu, Derek Chauvin a été menotté et emmené en détention. Il risque jusqu'à 40 ans de prison. D'après les experts, il pourrait écoper d'une peine moins lourde car c'est sa première condamnation. Le juge prononcera la peine dans 8 semaines.
Merci Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.
L'héritage pour l'Amérique, disait à l'instant l'avocat de la famille. C'est aussi le sens du message de Joe Biden. Il s'est adressé aux Américains à la télévision juste après le verdict.
C'est le moment pour ce pays de se rassembler, de s'unir en tant qu'Américains. Nous ne pouvons jamais être un havre de paix pour la haine en Amérique. C'est un meurtre en pleine lumière du jour qui a arraché les œillères, laissant le monde entier voir le racisme systémique qui entache l'âme de notre nation.
Joe Biden à la télévision américaine hier soir appelant à l'unité et à éviter les violences.
7h04 sur Europe 1. En France, nouveau conseil de défense à l'Élysée aujourd'hui avec au menu notamment la rentrée scolaire.
L'exécutif maintient sa volonté de rouvrir les écoles dans 5 jours, mais se fait plus vague désormais sur les secteurs qui pourront vraiment lever le rideau à la mi-mai. L'épidémie ne recule pas, encore 400 décès hier, 6000 patients en réanimation et le ministre de la Santé qui commence à laisser entendre que le déconfinement pourrait se faire en décalé selon les régions. Il y a de la gêne aux entournures, Hélène Terzian.
Le déconfinement pour la mi-mai, le chemin est tracé, mais au gouvernement, pour y arriver, on zigzague. Boire un verre en terrasse, visiter un lieu culturel le 15 mai, les Français veulent y croire, Marlène Schiappa aussi, mais la ministre reste prudente. J'espère que ce rendez-vous sera tenu, prévient-elle. Alors, est-ce qu'il y a un chemin bis ? Olivier Véran, lui, ouvre la voie à une approche territoire par territoire. Une manière de fragiliser la tenue du calendrier, évidemment, répond-on dans l'entourage du ministre de la Santé, où l'on explique en coulisses qu'avec 33 000 cas quotidiens et 6 000 patients en réa, on est presque au niveau d'entrée dans le deuxième confinement. Malgré le rythme de la vaccination, c'est délicat, dit-on, d'où l'idée de commencer par les départements les moins touchés, par exemple le Finistère, le Gers et les Pyrénées-Atlantiques. Un affichage politique pour montrer que l'exécutif tient les délais. À l'Élysée, on veut garder le cap. Les chiffres vont dans le bon sens, dit-on, mais pas question d'avancer la date du 15 mai. L'interprétation sur la mi-mai reste large, plus que jamais le virus détermine le calendrier.
Hélène Terzian.
Concernant la vaccination, 70% des plus de 70 ans sont désormais protégés. C'est félicité hier soir Emmanuel Macron.
Et de nouveaux créneaux dédiés vont ouvrir à partir de samedi pour les travailleurs des métiers de deuxième ligne, âgés de plus de 55 ans, éboueurs, chauffeurs de bus et de taxi, caissiers et caissières ou encore les boulangers. Et puis l'Agence européenne du médicament, elle, a validé le vaccin Johnson & Johnson hier après-midi. Les bénéfices sont supérieurs au risque, écrit-elle, malgré un risque de thrombose très rare inscrit sur la liste des possibles effets indésirables.
L'une des conséquences de la pandémie, vous le savez, c'est le ralentissement de nombreux secteurs de l'économie, et notamment l'automobile.
Chaîne de production à l'arrêt pour cause de pénurie de semi-conducteurs, ces composants électroniques, on vous en a parlé, mais on a désormais des chiffres et ils sont conséquents. Bonjour Aurélien Fleureau.
Bonjour.
1 million de voitures en moins produites à travers le monde depuis le début de l'année, 1 million. Les conséquences de cette pénurie dans les usines se font de plus en plus lourdes.
Oui, puisque ce qui n'était au début, il y a quelques semaines, qu'une suppression ponctuelle d'heures supplémentaires certains samedis est en train de se transformer en fermeture répétée de lignes de production. Par exemple, chez Renault, cette semaine, l'usine de Flins dans les Yvelines est à l'arrêt. En ce moment, c'est une semaine sur deux pour le site qui assemble la Zoé. Même chose à l'usine STA de Ruitz dans le Pas-de-Calais. Et des fermetures tous les vendredis de mai sont déjà quasiment actées. Du côté de Toyota à Honin dans le Nord, l'impact est moindre malgré trois jours de fermeture ce mois-ci. Et puis chez Stellantis, ex-PSA, plusieurs sites sont aussi touchés, en particulier Rennes et Sochaux.
Oui, Sochaux, où nous nous rendons justement ce matin avec vous, Arthur Mbaché. Bonjour Arthur.
Bonjour.
Dans la plus grande usine du groupe Stellantis, anciennement PSA, on le précise, on continue. Concrètement, cette pénurie de semi-conducteurs, ça a quelles conséquences sur place ?
Eh bien déjà, tous les matins, les ouvriers de Peugeot doivent appeler un numéro vert pour savoir si oui ou non, en fonction de l'arrivée ou pas de semi-conducteurs, ils travaillent ce jour-là.
Numéro vert du site Stellantis de Sochaux, la séance de ce mardi après-midi est confirmée, prochain point à 17h30 pour les tournées suivantes. Merci de votre appel.
Et encore, ça c'est pour la 3008 et la 5008. La ligne de la 308 est à l'arrêt depuis 4 semaines pour la relancer. Stellantis imagine une astuce, en revenir sur le tableau de bord au compteur de vitesse à aiguille à la place de l'écran numérique, explique Éric Pelletier de Force Ouvrière.
Là, on a besoin effectivement de semi-conducteurs, puisque ce sont des espèces de cristaux liquides, c'est une tablette quoi en fait, ça ressemble à une tablette. Dans les systèmes à aiguille, il n'y a pas besoin de semi-conducteurs. Sauf que ça ne peut pas se faire comme ça, en claquant des doigts. Et il faut surtout retrouver quelqu'un qui refabrique, le constructeur d'avant, veuille bien refabriquer des compteurs à aiguille. L'intérêt, c'est effectivement de refaire des véhicules, et surtout éviter aux salariés du site de Sochaux d'être en chômage. Quoi.
En attendant, un quart des voitures normalement produites ici chaque jour ne sont pas fabriquées.
Merci Arthur Mbaché. Je me retourne vers vous Aurélien Fleureau. Ces fermetures des lignes de production, est-ce qu'elles ont déjà aussi des conséquences pour les clients sur les délais de livraison des voitures ?
Alors pas de pénurie dans les concessions à ce stade, mais en revanche il faut parfois être un peu plus patient, plusieurs semaines, surtout si l'on veut une option bien précise, puisque pour continuer à sortir des voitures, eh bien les constructeurs font des choix et doivent parfois aller au plus simple. Hein. Toutes les technologies ne sont pas réalisables en ce moment. On l'a compris, c'est parfois l'absence d'une puce minuscule qui peut bloquer toute une chaîne de production.
Et ça va forcément durer. Je veux dire, il n'y a pas de solution à court terme.
Alors la seule solution, c'est la montée en cadence des fournisseurs de puces, hein, commencé par le taïwanais TSMC qui a prévu d'investir 100 milliards de dollars sur 3 ans. Ils produisent déjà les deux tiers des composants électroniques dans le monde, mais cette accélération risque désormais d'être contrariée par une sécheresse historique dans le pays. C'est en effet une production qui a besoin d'énormément d'eau, hein. Figurez-vous, plus de 150 000 tonnes par jour sur les 3 usines de TSMC. Et quoi qu'il en soit, tous les fabricants de semi-conducteurs s'accordent pour dire que la pénurie aura encore des impacts en 2022 et même 2023.
Ligne de production à l'arrêt, retour peut-être des compteurs à aiguille. Les conséquences aujourd'hui et demain de la pénurie de semi-conducteurs dans l'automobile. Dossier signé Aurélien Fleureau et Arthur Mbaché pour Europe 1.
C'est l'autre dossier santé qui préoccupe certains élus. L'Agence nationale de sécurité sanitaire donne son feu vert à la 5G.
Elle ne présente pas de risque nouveau par rapport au réseau télécom déjà existant. Voilà ce qu'estime l'ANSES. L'avis était très attendu, en effet, par une dizaine de maires qui faisaient barrage au déploiement des antennes sur leur commune, notamment à Hyères dans l'Essonne, où Olivier Clodon avait fait voter un moratoire en attendant ce rapport. Il l'a lu et il n'est pas franchement rassuré.
Mon sentiment est plus que mitigé. Je n'ai aucun soulagement à lire le rapport de l'ANSES. Au contraire, peut-être encore plus de questions qu'avant. Ce que je remarque, c'est que l'ANSES n'est elle-même pas très claire. L'agence demande d'abord, propose de mettre pendant plusieurs semaines son expertise à la lecture du public pour recueillir des avis. L'ANSES propose également de compléter ses études. Moi, je pense que je vais proposer à mes élus de prolonger le moratoire que nous avons voté en décembre dernier, au moins jusqu'à la publication des études complémentaires de l'ANSES. Il ne s'agit pas de revenir à la lampe à huile, ce n'est pas le problème. Le débat de la 5G, ce n'est surtout pas le débat des anciens contre les modernes. J'en veux pour preuve que ma ville de Hyères a été la deuxième ville d'Île-de-France qui a accédé à la fibre optique. Bon, simplement, je dis que tout ça ne doit pas se faire au détriment de la santé et qu'il y a un principe de précaution sanitaire et que le travail d'un maire, c'est d'abord d'assurer la santé de ses administrés.
Le maire sans étiquette de Hyères dans l'Essonne, au micro européen de Pierre Herbulot. Une baisse de débit, en revanche, pour Netflix. L'action du géant du streaming dévise de 10% ce matin après des résultats jugés décevants par les actionnaires. Seulement 208 millions de nouveaux abonnés au premier trimestre contre un objectif affiché de 210 millions.
Et on va parler de Netflix, entre autres, et de vos abonnements numériques. Les Français accros à ces abonnements numériques, c'est dans le journal de 7h30. Les pays de l'Union européenne s'engagent, eux, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030.
Moitié moins, donc, en 9 ans. Accord trouvé à la veille d'un sommet mondial sur le climat initié par Joe Biden. Eux ont donné un sacré coup de froid sur le projet de Super League qui est en train de se transformer plus simplement en Super Bid. Les 6 clubs anglais de football engagés dans le projet de sécession s'en retirent, communiqués en cascade cette nuit. Manchester, Chelsea, Liverpool ont cédé notamment sous la pression de leurs supporters qui ont manifesté devant les stades. Julien Froment.
Ces supporters de Chelsea peuvent jubiler, les clubs anglais quittent le projet Super League seulement 48 heures après son lancement. Ce revirement soudain de situation, c'est grâce en partie à la pression populaire, mais aussi et surtout aux condamnations politiques. Christophe Le Petit est économiste du sport.
À mon avis, au-delà de la réaction des fans, c'est évidemment la réaction politique violente. On peut penser à Emmanuel Macron, Boris Johnson, puis évidemment aussi les institutions européennes avec le président du Parlement européen. C'est très certainement une force de l'UEFA qui a toujours travaillé de façon très étroite et en proximité avec les institutions européennes, d'avoir su aussi mobiliser l'écosystème politique pour amener à une condamnation publique ferme et sans ambiguïté de ce système de Super League.
En Espagne, l'Atlético de Madrid semble aussi hésiter. Le FC Barcelone, quant à lui, va demander l'avis de ses socios. Seul le Real Madrid et la Juventus Turin, les deux clubs à l'initiative, maintiennent le cap. L'union sacrée des 12 dissidents est en train d'éclater en plein vol, alors que le président de l'UEFA, Alexander Seferin, les avait appelés hier matin à revenir à la raison.
Julien Froment. Enfin, nous étions en Angleterre il y a quelques secondes. Restons-y pour un anniversaire, Mathieu, et pas n'importe lequel. La reine Elisabeth fête aujourd'hui ses 95 ans, 4 jours après les funérailles de son époux, le prince Philippe. Alors, deuil oblige, on ne tirera pas les traditionnels coups de canon qui marquent habituellement l'événement à Londres. Mais au vu des épreuves qu'elle vient de traverser, les Britanniques auront une pensée pour leur monarque. Anaïs Cordoba.
Très attachée à la famille royale, Carrie a été bouleversée de voir la reine seule et voûtée lors des funérailles du prince Philippe. Mais cette image de fragilité n'a rien enlevé à son admiration pour la souveraine.
Wow, 95 ans, arriver à cet âge, c'est déjà un exploit. Mais elle, en plus, c'est un monarque qui a vécu et fait tellement de choses. Certaines personnes estiment qu'elle a eu une vie extrêmement privilégiée, mais en fait, elle a donné sa vie à la monarchie. Elle a toujours été là depuis que je suis née. C'est un roc, elle est très solide. C'est une femme extraordinaire.
William, lui, ne se définit pas comme un fan de la famille royale, mais il est très fier de la reine comme chef d'État.
Sa réticence à faire preuve d'ego, cette manière dont elle a gardé la confidentialité autour de sa vie, dans un monde où nous parlons sans cesse de nous-mêmes, cela inspire quelque chose d'agréablement constant, durable et respectable. Alors, est-ce que le souverain qui suivra fera de même ? Je ne sais pas. Mais je pense que l'histoire d'amour entre elle et le reste du monde sera difficile à remplacer.
En 2022, ces Britanniques célébreront un grand anniversaire aux côtés de la reine, celui de ses 70 ans sur le trône, le jubilé de platine. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Voilà, happy birthday, Elisabeth II.
J'allais vous poser la question, ça se fait ? On peut, avec le protocole ? Je souhaitais un bon anniversaire à Elisabeth II.
Voilà,
c'est fait dans le journal de 7h d'Europe 1 ce matin, grâce à vous, Théo Manval. Merci Théo, il est 7h14.
Europe 1, Mathieu Béliard.